Bonjour, je voudrais vous reparler encore de la puissance de notre confession, mes frères et sœurs. Parce que j'entends tellement de choses négatives et je voudrais que nous ne sommes pas des gens de la pensée positive, nous sommes des gens de la foi en Jésus-Christ. Hein? Il faut que ça soit bien clair. Les gens qui enseignent les choses au sujet de la pensée positive ont pompé la Bible, ils se sont servis de la Bible. Mais le message à l'origine, il est biblique. Et je voudrais vous lire encore ce matin, là maintenant, Hébreux chapitre 3, verset 1. Voilà ce qui est écrit. Frères saints, qui avez part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons, Jésus. Alors, dans d'autres versions, c'est marqué que nous professons. Mais je vous avais déjà expliqué, n'est-ce pas, que certaines versions disent professer, d'autres disent confesser. Confesser, ça veut dire, hein, que nous disons les choses que Dieu dise. Il est le souverain, Jésus est le souverain sacrificateur des choses que nous disons par la foi dans ce qu'il a dit lui-même. Hein. Alors, je répète, frères saints qui avaient part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous confessons, Jésus, qui était fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Je sais que j'ai déjà parlé sur ce texte il y a quelque temps, mais je veux revenir là-dessus, parce que c'est tellement important. Ce verset, il a été fidèle à celui qui l'a établi, c'est-à-dire il était fidèle à son Père, qui l'a établi en tant que souverain sacrificateur de quoi? De notre confession. Alors, quand on est malade, par exemple, ou quand on a des problèmes financiers, ou quand on a peu importe, quand on a des problèmes, il nous faut confesser hardiment les promesses divines et non pas dire et parler tout le temps de nos problèmes. Lorsque nous confessons les paroles de Dieu, alors notre souverain sacrificateur, Jésus, agit en notre faveur en accord avec la confession de nos paroles, avec ce que nous disons. Il est en accord avec ce que nous disons. Il est la parole. Et nous avons aussi une parole. Mais si notre parole est différente de sa parole, que voulez-vous qu'il fasse? Il intercède auprès du Père au sujet des promesses qu'il a dites et que nous disons. Je répète, il intercède auprès de notre Père au sujet des promesses qu'il a dites et que nous répétons. Les promesses qu'il a dites, nous les faisons nôtres, nous croyons ces choses et nous les disons, nous en parlons. Nous ne parlons plus de nos maladies, nous ne parlons plus de nos défaites, nous ne parlons plus de... Il est le souverain sacrificateur de ce qu'on dit. Dans l'attente du bienfait préparé pour nous et que nous avons demandé à notre Père, il est dit encore un peu plus loin, retenons fermement, sans douter, la confession de notre foi. Vous voyez? Il intercède auprès du Père. Il y a un temps entre le moment où nous faisons connaître à Dieu notre besoin et où nous restons fidèles sur ses promesses, croyant qu'il a promis. Pendant ce temps, il intercède et en attendant ce bienfait, eh bien, que nous demandons, eh bien, retenons fermement, sans douter, la confession de notre foi. Hébreux 10, 23. Parce que celui qui a fait la promesse, la Bible dit, il est fidèle. C'est clair. Nous savons que le souverain sacrificateur de notre confession est fidèle, comme le fut Moïse, pour intercéder pour nous. Jésus-Christ est fidèle. Il est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Ce qu'il apporte devant Dieu, c'est le sacrifice de nos lèvres, ce que nous disons de nos lèvres, il l'apporte devant Dieu et il est fidèle comme Moïse l'était dans toute sa maison. Et il est fidèle pour intercéder avec la preuve que nous sommes dans la foi, puisque nous utilisons ses propres paroles, nous citons ses promesses, nous les connaissons, nous sommes fermes dessus, pour aller jusqu'à l'exaucement. Pour que l'exaucement nous arrive. Et il va nous arriver selon la promesse que nous confessons avec nos lèvres, dans la foi, dans la prière, dans nos conversations, dans notre témoignage, dans nos façons de penser, dans nos actions. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est comme cela. Et une mauvaise confession, elle consiste à confesser nos défaites, nos chutes, et donc la suprématie de Satan. C'est ça le problème. parler de vos combats avec le diable, dire tout le temps le diable a fait ci, le diable a fait ça, et dire comment il vous a contré, comment il vous a tenu dans l'esclavage et dans la maladie, et confesser toutes ces choses-là, vous confessez la défaite quand vous faites ça. Et cette mauvaise confession, elle glorifie votre adversaire. C'est une déclaration qui est inconsciente que vous faites, n'est-ce pas? Parce que vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train de glorifier votre ennemi, mais c'est une déclaration inconsciente que votre Dieu et Père a manqué envers vous. Vous voyez? Notre parole. On se lie par notre parole, ou on se délie par notre parole. De nos jours, la plupart des confessions que nous entendons glorifient le diable. Vraiment. Une telle confession, ça épuise la vie, ça épuise votre vie, ça détruit votre foi, ça vous retient en esclavage. La confession de vos prières, ce que vous dites dans vos prières, qui est germé dans vos cœurs, comme le fruit de la foi, vaincra absolument définitivement votre adversaire dans chaque combat. La confession, ce que vous dites, si vous dites comme Dieu dit, si vous confessez l'habileté de Satan à vous empêcher de réussir, alors ça lui donne l'avantage sur vous, il vous remplira de crainte et de faiblesse, ça c'est sûr. Mais si fermement vous confessez l'attention, la protection de votre Père, en déclarant que celui qui est en vous est plus grand que n'importe quelle force autour de vous, alors vous vous élevez au-dessus de toute influence satanique. Bien sûr que l'influence satanique existe. Mais c'est vaincu tout ça. Il faut entrer dans cette victoire. Chaque fois qu'on confesse nos doutes, nos craintes, eh bien, on est en train de confesser notre foi en Satan. C'est terrible, 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 terrible. Chaque fois qu'on confesse nos doutes, nos craintes, eh bien, on est en train de nier la capacité et la grâce de Dieu. Vous allez me dire que c'est un peu fort. Ben, c'est exactement ça pourtant. En confessant votre faiblesse et vos maux, vous confessez ouvertement que la parole de Dieu n'est pas vraie et que Dieu n'a pas réussi son œuvre. Pensez-y, pensez-y. Dieu déclare, par ses meurtrissures, vous avez été guéri. Et cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Alors, rendons le témoignage de l'évidence naturelle. Si on veut être perdant. Ah oui, mais moi je veux être naturel, mais moi je veux être vrai. Alors j'ai mal, donc j'en parle, je le dis, hein, et puis voilà, et puis je le répète encore, priez pour moi, parce que vraiment, vous voyez, le diable m'attaque et tout. Confessez, n'est-ce pas? Rendez le témoignage de l'évidence naturelle, de vos symptômes et tout ça. Et puis alors là, vous êtes sûr que, bon, ben, même si vous dites, oh, j'ai ceci, j'ai cela, priez pour moi, une fois vous le faites. Et après, vous demeurez ferme là-dedans, dans la confession de votre foi. Aussi longtemps que je maintiens la confession de mes faiblesses, mes frères et sœurs, maladie, douleur, pénurie, ça restera là. Je peux chercher pendant des années un homme de Dieu pour la prière de la foi en ma faveur, ça servira à rien. Parce que c'est l'incrédulité qui détruit les effets de la foi. Et me dire, mais je ne suis pas un incrédule tant que tu ne parles pas la parole de Dieu. Tant que dans ta bouche, c'est ta parole et non pas la parole de Dieu. Tant que dans ta bouche, c'est la parole qui confesse tes souffrances, tes machins, tes difficultés. Je sais que ce n'est pas facile. Mais nous sommes des disciples et nous devons apprendre à nous discipliner dans notre façon de parler, n'est-ce pas? Alors lisez la parole de Dieu. Parlez la parole de Dieu. Confessez la parole de Dieu, agissez d'après la parole de Dieu, et la parole de Dieu fera partie de votre être. Vous savez, Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ça, c'est Galates 3:13. C'était quoi cette malédiction? Au chapitre 28 de Deutéronome, il est dit que les maux suivants viendraient sur le peuple à cause de la désobéissance aux lois de Dieu. Peste, consomption, tuberculose, fièvre, inflammation, chaleur brûlante, jaunisse, gangrène, ulcère, hémorroïde, gale, teigne, délire, cécité, ulcère malin aux genoux et aux jambes. Vous savez, si votre maladie ne se trouve pas dans cette liste, écoutez le reste de ce passage. Toutes les maladies d'Égypte, toutes sortes de plaies qui ne sont point mentionnées dans ce livre de cette loi. Voilà, ça c'est ça, vous allez y trouver votre cas dans cette liste. Paul dit, Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Galates 3, 13. La malédiction de la loi, de cette loi qu'on trouve dans Deutéronome 28, c'est une malédiction. Eh bien, la malédiction de la loi, elle inclut toutes les maladies, toutes les plaies de l'histoire du monde. Vous allez lire ça dans Deutéronome 28, 60 et 61. Alors, pour que Christ puisse nous racheter de cette terrible malédiction de la loi, il est devenu malédiction pour nous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a porté pour nous, à notre place, la punition exigée par la loi. C'est pour cela qu'il a dû prendre nos infirmités et porter nos maladies. Matthieu 8, 17. Vous voyez, ça c'est la vérité. Ça c'est la parole de Dieu. C'est pas la méthode Coué. C'est pas la pensée positive, New Age. C'est la parole de Dieu. Adam et Ève nous ont vendu un esclavage au diable. Ils nous ont soumis à la puissance du diable, sous la juridiction du diable. Mais Jésus-Christ nous en a rachetés. Il nous a rachetés au prix de son propre corps, de son propre sang. Il nous a libérés. Écoutez, 1 Corinthiens 6, 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Moi, ça me fait tressaillir de joie de savoir que Dieu nous a tellement aimés qu'il a payé un prix si grand pour notre rédemption, pour nous délivrer de Satan. Il a payé notre rachat au prix de son Fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jean 3, 16. C'est une sorte d'amour qu'on ne peut pas vraiment comprendre. C'est l'amour de Dieu. Le calvaire est notre proclamation d'émancipation de tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu pour l'homme. C'est ça. C'est pas seulement le calvaire, c'est le calvaire et la proclamation. Il faut que nous proclamions ce qui s'est vraiment passé là sur la croix. Et alors à ce moment-là, le calvaire va devenir la proclamation d'émancipation. Vous comprenez? Il a agi et maintenant nous devons parler en conséquence de cela. Confessez votre liberté au lieu de votre esclavage. Confessez par ces meurtrissures je suis guéri au lieu de confesser votre maladie. Confessez que votre rachat du péché et de la maladie est complet. Confessez que la domination de Satan sur vous, elle a pris fin au calvaire. Point. Parce que c'est là que Dieu vous a libéré, au calvaire. La parole de Dieu déclare tout cela. Alors nous avons à le confesser maintenant. Vous savez, lorsque les esclaves ont connu la proclamation de leur émancipation aux États-Unis, ils ont continué à vivre dans leur quartier et ils avaient encore l'apparence des esclaves et ils se sentaient encore esclaves, mais lorsqu'ils ont entendu lire cette proclamation, ils avaient légalement le droit de dire « Je suis libre, je peux profiter de cette liberté », vous voyez? Est-ce que vous ne pouvez pas croire ça? Ne pouvez-vous pas croire? D'autant plus que votre proclamation de votre liberté a été écrite. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Galates 5, 1. Il faut enseigner la parole de Dieu. À la limite, vous savez, je vais vous dire, il y a des gens, ils connaissent le nom de la sœur de Moïse, ils connaissent l'âge d'Enoch, ils connaissent le nom de la belle-sœur de Josué. Moi, je m'en fous de tout ça. C'est pas ça qui est important. Vous voyez ce que je veux dire? La connaissance de la parole de Dieu. Vous êtes libre. Confessez-le. Dites-le. Dites au diable, que vous avez découvert la vérité. Dites-lui. Lui, il la connaissait. Il la connaissait. Il savait ça de tout temps. Mais il vous a menti. Il vous a aveuglé. Il vous avait empêché de connaître vos droits. Voilà ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 4:4. La Bible dit dans 2 Corinthiens 4:4, le Dieu de ce siècle, Satan, a aveuglé l'intelligence de ceux qui ne croient pas. Les vierges folles. Voilà. Dites à Satan que vous avez la vérité. Et la vérité vous rend libre de lui. Faites-lui savoir que par la confession de la parole, vous êtes libre de sa domination et que vous le savez. Vous savez, cette déclaration de la parole de Dieu, écoutez, ce sont nos souffrances que Jésus a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est comme un chèque de Dieu pour notre parfaite guérison. Il faut que vous encaissiez ce chèque au moyen de votre confession et vous recevrez complète guérison directement par Dieu. Et si je vous donne un chèque et que vous n'allez pas le mettre à la banque, ce chèque, il ne vaut rien. Il ne vaut que si vous faites ce qu'il faut faire avec. Eh bien, la parole de Dieu, vous pouvez avoir 10 000 Bibles chez vous, ça ne sert à rien du tout. Il faut encore que vous fassiez avec cette Bible, avec cette parole de Dieu, ce qu'il faut faire. Les maux de votre corps ont été déposés sur Jésus. Lui, il les a. Portez, vous n'avez plus besoin de le faire. Il vous suffit de croire qu'il les a portés et de commencer à le dire. Vous n'avez pas à permettre à la maladie d'habiter dans votre corps parce que vous avez été guéri par les meurtrissures de Jésus. Si les chrétiens voulaient croire cela, ça serait la fin des soi-disant maux chroniques. Rappelez-vous toujours que Satan est un trompeur, c'est un menteur. Ce qui est terrible, c'est que c'est nous les prédicateurs qui passons pour des menteurs. Maladie, douleur, péché, infirmité, tout ça, ça a été déposé sur Jésus et il les a portés et il a enlevé tout cela et nous a laissés libres et saints. Alors, réjouissons-nous de cette liberté qui est la nôtre et profitons-en. Vous savez, pour beaucoup, la rédemption, ce n'est pas une réalité, c'est seulement une théorie, une doctrine, un credo, une loi de plus. Et Satan a tiré avantage de cette ignorance de l'Église. Mon Dieu. Frères et sœurs, nous sommes rachetés de toute la puissance de Satan. Ça signifie acheter de nouveau. Racheter, ça signifie acheter de nouveau. Nous sommes la nouvelle création. Nous sommes délivrés du royaume des ténèbres. Nous ne sommes plus esclaves de Satan. Le péché et la maladie ne règnent plus sur nous. Ils existent. C'est des autorités, mais ils n'ont plus d'autorité sur nous. Ils ne règnent plus sur nous. Vous avez été rachetés à un grand prix. Alors il vous faut maintenant commencer à glorifier Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. Comment ? Eh bien déjà, premièrement, en commençant par confesser ces choses afin que votre corps et votre esprit soient libérés de tout ce qui est mauvais. Il est autant impossible de glorifier Dieu dans notre corps lorsqu'il est malade que de le glorifier dans notre esprit lorsqu'il est dans le péché. Vous voulez que je répète ? Il est autant impossible de glorifier Dieu dans notre corps lorsqu'il est malade que de le glorifier dans notre esprit lorsqu'il est dans le péché. Le seul moyen de glorifier Dieu dans notre corps quand il est malade, vous savez ce que c'est ? C'est de dire « Jésus, je sais que le diable est un menteur, tu as porté cette maladie, il a essayé de mettre ça sur moi, mais mon Dieu, je ne me plains pas, je te loue parce que je sais que tu m'as délivré. » Et voilà comment vous pouvez glorifier Dieu avec une maladie dans votre corps, mais pas autrement. Ça ne glorifie pas Dieu que vous ayez une maladie dans votre corps et que vous vous traîniez et que vous cherchiez à vous faire plaindre par les uns et par les autres. Vous êtes délivré, mon frère, ma sœur. Vous êtes délivré, vous êtes libre. Confessez ça. Dites ça. Dites ça. Dites cela encore et encore et encore. Dites au diable, Satan, tu es un menteur. Je sais que je suis une propriété rachetée parce que j'ai accepté Jésus comme mon rédempteur. Je ne demeure plus sur ton territoire. Tu n'as plus le droit légal pour empiéter sur ma propriété. Je ne suis plus à toi. Je ne suis plus sous ta juridiction. J'ai été racheté de ton autorité par Jésus-Christ. Dites-lui. Est-ce que vous l'avez dit ça une seule fois dans votre vie déjà? Dites-lui. La maladie que tu m'as donnée a été maudite pour moi à la croix du calvaire. Et vous lui dites, Galates 3, 23. Dites-lui. Dites-lui. Et tu sais que je n'ai plus besoin de la supporter. Dites-lui. Je te commande au nom de Jésus-Christ de quitter mon corps. Vous avez l'autorité. Je suis libéré de la malédiction. Parce qu'il est écrit, par ses meurtrissures, je suis guéri. Et je le suis parce que Dieu le dit. Parce que la Bible le dit. Parce que Dieu le dit. Et toi, Satan, tu es un menteur. Tes douleurs sont mensongères. Tes symptômes sont des mensonges. Ainsi que tes paroles. Jésus a dit que tu es le père du mensonge. Et puis alors, après avoir dit tout ça, remerciez le Seigneur pour votre délivrance. Remerciez le Seigneur pour votre délivrance. Vous voyez, Satan n'ignore rien de tout ça, mais seulement lorsqu'il sait que vous l'avez découvert, il doit respecter vos paroles. Et peu de gens réalisent qu'ils sont affranchis de la domination de Satan. Peu de gens. Et beaucoup sont morts prématurément pour avoir ignoré leurs droits en Jésus-Christ. Voilà. Je pensais que c'était bien de vous le dire. Je voudrais que Dieu grave ces choses dans votre cœur, que cela devienne une partie de vous, que cela occupe vos journées, que cela occupe vos nuits, que vous y pensiez, que vous en parliez, que vous en rêviez la nuit. C'est ça la vérité. La bonne nouvelle, c'est ça. Prêchez l'Évangile. Là, nous sommes le vendredi 20 novembre, et lundi je pars en Afrique pour prêcher ça, pour dire ça. Alors quand je m'adresse à des païens, je dis ça, et quand je m'adresse à des chrétiens, je dis ça. Aux chrétiens, je peux leur dire encore des choses un peu plus profondes, parce qu'ils sont plus à même de comprendre. Alors je leur explique comment, par exemple là nous sommes sous le quatrième sceau, peu de gens savent ça, nous sommes sous le quatrième sceau. Sous le quatrième sceau, c'est pas seulement les démons qui sont là à lâcher contre les êtres humains, mais c'est la mort et le séjour des morts. Le séjour des morts a été ouvert et les morts se baladent et ils essayent de posséder les esprits des gens, les pousser au suicide. Combien de chrétiens savent ça? Combien de chrétiens? Il faut leur dire, c'est important. Vous voyez, c'est important. Il faut écouter quand un serviteur de Dieu parle. Bon, si c'est un radoteur un bonimenteur Mais mes frères et sœurs, Dieu m'accompagne par des signes, des prodiges et des miracles pour confirmer que ce que je dis est vrai. Je ne dis pas ça pour m'enorgueillir, je dis ça pour attirer votre attention, pour que vous remarquiez, voilà, si Dieu l'exauce, cet homme là-bas, ce Michel Janton bizarre, pourquoi? Eh bien, c'est pour confirmer que ce que je dis est vrai. Vous devez l'écouter. Vous devez le croire. Vous devez choisir de le croire. Et une fois que vous avez choisi de le croire, vous mettre à vous discipliner, à vivre en conséquence. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Ça fait déjà presque 25 minutes que je vous parle. Et je sais très bien qu'au bout de 20-25 minutes, c'est difficile de garder l'attention. Donc je vais me taire, je vais prier pour vous, que Dieu vous bénisse. Et puis je vous retrouve dimanche, que Dieu vous garde dans sa paix. Merci Seigneur Jésus de ces choses que j'ai pu dire en toute simplicité. Je te prie, mon Dieu, que ces choses tellement profond puisse vraiment entrer dans le cœur et dans le cerveau de chacun. Qu'il passe sur la façon dont je l'ai dit. Bon, peut-être ça ne leur plaît pas la façon dont je dis, mais Seigneur, qu'ils se rendent compte que c'est vrai. C'est ça qui est important, mon Dieu. Qu'ils se rendent compte que c'est vrai et qu'ils se mettent à le faire et à le rendre réel dans leur propre vie, pour leur propre bien et pour le bien de tous ceux qui les entourent, à qui ils pourront parler de ces choses aussi. Père, je te le demande dans le nom de Jésus encore une fois, mon Dieu. Amen. Amen. À bientôt. Au revoir.